car c'est un duel d'intelligence, l'humaine contre l'artificielle.
Ouais. À ma gauche, Raphaël Enthoven, 47 ans, médiatique, professeur de philosophie. À ma droite, ChatGPT, cette intelligence artificielle développée depuis 7 ans, disponible pour le grand public depuis la fin de l'année dernière. 200 millions d'utilisateurs dans le monde. Alors l'humain a-t-il encore une chance face au logiciel? Voilà la grande question. On sait que l'intelligence artificielle nous dépasse désormais dans plusieurs domaines. Elle peut générer en quelques secondes une image d'illustration, un résumé de texte, des paroles de chansons et même des diagnostics médicaux avec parfois plus d'efficacité que la rétine humaine. Les unes de la presse rivalisent d'ailleurs de titres angoissants sur le mode « Votre métier va-t-il être remplacé par l'intelligence artificielle ?» Réponse d'ailleurs « Oui, probablement, si vous êtes comptable, interprète ou journaliste d'ailleurs. » Tiens, est-ce qu'il faut d'abord tout de suite jeter l'éponge? Est-ce qu'il faut rendre les armes face au cerveau des robots? Pas si sûr. Et s'il nous restait à nous humains une forme de particularité, une plus-value, une qualité inatteignable par l'IA, comme par exemple la philosophie, la capacité à philosopher? Pour en avoir le cœur net et à l'occasion du bac philo cette semaine, une école de commerce a tenté cette expérience inédite, un duel homme-machine sur une dissertation. Le bonheur est-il affaire de raison? Voilà le sujet sur lequel ont planché ChatGPT d'un côté, Raphaël Enthoven de l'autre. Tous les deux avaient une heure pour rendre leurs copies, des copies ensuite anonymisées et corrigées par un jury de philosophes. Résultat, victoire sans appel de l'esprit humain. Raphaël Enthoven engrange un 20 sur 20 alors que les réflexions de ChatGPT obtiennent à peine mieux que la moyenne, un petit 11 sur 20. Voici le commentaire de l'une des examinatrices, l'écrivaine Eliette Abécassis.
Un peu de l'histoire de la philo pour les nuls, là. Face à la copie de Raphaël Enthoven, qui était absolument très bien écrite, très plaisante à lire, mais avec une vraie réflexion approfondie, surprenante, qui nous cueille.
Ouf, l'humain a gagné. Voici le premier réflexe, le premier soulagement que l'on a avec ce verdict. Tout n'est donc pas perdu. Ce n'est pas le remake de Gasparov contre l'ordinateur en 1997 qui avait donc perdu aux échecs. Mais après ce léger soulagement vient un peu de doute, un peu de peur, même quand on s'intéresse aux conditions dans lesquelles a été organisé ce match. Certes, le philosophe en chair et en os a obtenu 20 sur 20, mais après s'être creusé les méninges pendant plus d'une heure, tandis que ChatGPT a mis 1 minute 30 pour sortir, pour pondre cette dissertation qui obtient quand même 11 sur 20. Dans notre époque qui valorise la rentabilité, la productivité, il faut le reconnaître, si l'on prend ces critères-là, eh bien c'est ChatGPT qui a en réalité remporté l'épreuve. Catherine Tricot, est-ce que le monde politique, selon vous, a suffisamment pris en compte ces évolutions qui viennent?
Je croyais que vous vouliez me demander s'il travaille avec ChatGPT, parce que là, j'allais vous dire oui. Parce que c'est souvent pas très créatif, ce qui se sort comme idée. Est-ce qu'ils ont... Non, je pense qu'ils n'ont pas pris en compte, mais d'une façon générale, ils sont un peu décalés par rapport aux enjeux. On vient de parler de l'espace et c'est quand même pas été une question très portée pendant la dernière élection présidentielle. C'était pas nouveau et pourtant c'était absent, et ça, c'est non plus, ça n'est pas très présent. Je pense qu'en effet, tous les enjeux d'emploi sont très importants, mais plus fondamentalement, c'est quel type de société, dans quel type de monde on va vivre. Et ça, c'est une question politico-philosophique qui mériterait d'être un peu décryptée.
Pascal Blanchard, ça vous inquiète ou ça vous rassure? 1 minute 30 pour obtenir la moyenne pour ChatGPT en philo, vous, il vous a fallu quoi, 2 ou 3 années de terminale
oui. Pour atteindre la... Et encore, j'ai repassé mon bac au moins 12 fois. Et j'ai triché pour arriver à avoir l'épreuve. Vous avez dit quelque chose sur l'ordinateur face à Kasparov, qui est Deep Blue, qui arrive à le battre en 97. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il a fallu 7 ans pour y arriver en termes de développement. Et au départ, personne ne croyait que ça marcherait.
Et Kasparov avait gagné l'année d'avant, d'ailleurs.
Tout à fait. Et depuis le début des années 90...
Désormais, la machine gagne tout.
Et attendez, on a dit à l'époque, jamais un jeu de Go, un joueur de Go, pourra être battu par l'ordinateur. 20 ans plus tard, le cas est arrivé, et maintenant c'est irréversible. Donc, soyons tranquilles. Je pense que certains ont été surnotés, auront une note beaucoup moins bonne la prochaine fois, et l'ordinateur, à un moment, y arrivera. Non pas en perdant plus de temps, puisqu'il fera en fait progressivement de moins en moins de temps. La prochaine fois, il mettra 10 secondes et il sera à 18. C'est une évidence. On n'en est qu'aux prémices et la préhistoire de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il faut être aveugle pour ne pas se rendre compte de ce que ça va révolutionner, ce que ça va muter, en quoi on va l'utiliser dans différents métiers, de là dire que ça remplace les gens. Nous faisons une erreur absolue en le positionnant de cette manière-là. C'est un outil. Et ça reste un outil.
Il ne faut pas confondre ChatGPT et l'intelligence artificielle. ChatGPT raconte des bêtises, on dirait que c'est une machine qui a été conçue pour nous faire croire qu'il n'y a pas de danger. En fait, l'intelligence artificielle, ça ressemble beaucoup plus en réalité à Black Mirror qu'à ChatGPT.
Et c'est une série d'anticipation.
Il ne faut pas se faire d'illusions. Les nouvelles machines apprennent elles-mêmes. C'est comme ça qu'elles ont battu le champion du jeu de Go, qui est beaucoup plus compliqué, dont les règles sont beaucoup plus compliquées à deviner que celles du jeu d'échecs. Les machines apprennent par elles-mêmes. C'est comme ça que j'ai vu une machine à traduire, par exemple. D'après des contextes, elle peut même suivre l'évolution d'une langue, l'évolution du sens des mots à travers les contextes.
Ça vous fait peur ou pas?
Ah ben évidemment, oui. Mais en même temps, c'est formidable. C'est des outils dont on va disposer qui vont nous simplifier la vie et nous économiser du temps de travail. Quelque part, c'est une bonne nouvelle.
Et ça va permettre à Pascal Blanchard, qui publie déjà
assez soutenu,
d'accélérer encore
une fois. Et encore plus.
Le regard de Thibaut Soulcier.